Bienvenue dans Blabla Yoga, épisode 64. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en Yin Yoga et en Yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour donner une autre vision du yoga. Un yoga où chacun peut trouver sa place, que l'on soit raide ou flexible, petit ou grand, fin ou rond, quel que soit son âge. Je ne crois pas aux règles universelles de l'alignement. En revanche, je crois que chacun peut trouver ses propres alignements. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je vous propose des réflexions, des partages d'expériences et des explorations. L'intention de ce podcast est de vous offrir la liberté de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Aujourd'hui, on parle de proposer un niveau avancé dans un cours tout niveau, que ce soit en Yin Yoga ou dans n'importe quel autre type de pratique. Si vous regardez les différents plannings des espaces qui proposent du yoga, la notation qui est proposée à côté du cours de Yin Yoga, c'est un cours tout niveau. Et la question qui se pose souvent en formation, c'est est-ce que le cours de Yin Yoga est un cours forcément tout niveau ? Oui, la plupart du temps, c'est un cours tout niveau, et nous allons voir dans cet épisode pourquoi c'est un cours tout niveau, en premier lieu. Ensuite, comment transformer un cours tout niveau en un cours avancé. Alors pourquoi, déjà, le Yin Yoga est proposé comme un tout niveau ? Parce que c'est un cours qui est très accessible à beaucoup de personnes, qui a un spectre assez large, et effectivement, c'est un cours qui peut se proposer tout niveau, sans distinction aucune, et c'est vraiment confortable pour ça, aussi bien pour les pratiquants qui peuvent venir du coup dans ce type de cours, mais aussi pour un professeur de recevoir des pratiquants de niveaux différents régulièrement. Alors oui, le cours de Yin Yoga est un cours tout niveau pour plusieurs raisons. La première est parce que un des piliers du yin, c'est l'immobilité. Et le fait de rester immobile pendant une période entre 3 et 5 minutes, cela offre à tous de la place pour s'installer dans la pratique, de trouver son positionnement, mais aussi au professeur de pouvoir guider une personne après l'autre ou plusieurs élèves les unes après les autres s'il y a du temps pour pouvoir installer les postures, proposer des variations et s'adapter à la posture ou au public. Donc ça, c'est la première chose. L'immobilité offre cette possibilité-là. Ensuite, si le cours est abordé par une approche fonctionnelle, c'est-à-dire que l'on va plus s'intéresser aux effets, aux bénéfices de la posture que du positionnement en lui-même, de l'installation en elle-même, eh bien, cela permet d'avoir des postures qui sont adaptées à chacun. Pour une personne qui a mal au genou, on peut adapter avec une posture équivalente mais qui n'aura aucun impact sur le genou ou très peu d'impact sur le genou. Pour une personne qui a des fragilités dans le dos, c'est pareil, on peut proposer d'autres postures qui ne vont pas avoir un impact sur le dos. Donc cette approche fonctionnelle permet déjà une grande variabilité, un grand spectre de postures de manière à respecter les blessures, les difficultés, les restrictions qu'une personne a, ce qui permet d'avoir un cours tout niveau. Ensuite, la pratique de Yin regroupe une vingtaine de postures dans son répertoire. Donc, au fil des semaines, s'approprier les différentes postures, ça va aller assez vite. Il y a même des postures que moi je ne propose pas en cours parce que je les trouve trop délicates ou pas accessibles à certains corps et du coup je préfère les extraire et ne pas les proposer pour que ce soit plus confortable. Et cela permet aussi de connaître plus facilement tout le répertoire de postures et utiliser les positions plus facilement. Ce qui permet à tous les élèves de s'approprier les postures qui sont les plus accessibles, les plus répétées assez rapidement. Et la dernière chose qui effectivement facilite cette proposition d'un cours tout niveau, c'est parce que on peut vraiment accueillir tous les publics, qu'on ait des personnes qui soient en bonne santé, que la personne soit raide ou encore hyper flexible. Que ce soit suite à une maladie ou suite à des blessures, on peut vraiment accueillir tout public, notamment quand, encore une fois, on joue avec cette approche fonctionnelle. Il y a juste des cas assez spécifiques où on ne va pas pouvoir accueillir tout le monde, et notamment quand on a affaire à une personne qui demande beaucoup d'attention. Alors, dans ces cas-là, le cours individuel sera beaucoup plus approprié qu'un cours collectif, quand un élève demande l'attention d'un professeur beaucoup de temps dans le cours en lui-même, c'est au détriment des autres élèves, et effectivement, là, ce n'est juste pour personne. Donc, c'est plutôt une question de cours individuel, cours collectif, qu'une histoire réelle de niveau de pratique. Ces différents facteurs que sont l'immobilité, l'approche fonctionnelle, le répertoire, le fait d'accueillir tous les publics, nous emmènent à voir qu'effectivement, le cours de Yin est plutôt facilement mis en place comme étant un cours tout niveau. Si vous voulez aller plus loin sur ces questions de niveau, vous pouvez vous référer à l'épisode 20 qui va parler justement de ces niveaux débutants, intermédiaires, avancés, et comment choisir son niveau et quels sont les critères pour choisir son niveau. Donc l'épisode numéro 20. Je vous remettrai toutes les informations en descriptif de l'épisode. Comme ça, vous pouvez écouter en toute tranquillité. Une question qui se pose souvent en formation par les élèves qui sont stagiaires, et est-ce que au bout d'un certain temps, les élèves ne s'ennuient pas, le répertoire n'est pas très grand, même si on a une variété de propositions, de thématiques, etc., est-ce que les élèves ne s'ennuient pas parce qu'il manque de répertoire ou parce qu'on fait souvent les mêmes choses? Eh bien, je vous le dis tout de suite, soyons clairs, non, les élèves ne s'ennuient pas. J'ai des élèves qui sont là depuis le début et ça fait plus de 13 ans que j'enseigne. Donc non. Peut-être que ces élèves-là vont venir pendant des longues périodes, vont s'absenter, vont faire autre chose, aller voir d'autres enseignants, puis vont revenir et maintenir une certaine régularité. Vous avez d'autres élèves, c'est dû à leurs emplois du temps, à leur vie, à ce qui se passe dans leur travail ou autre chose, et bien ils vont venir de temps en temps, vous les voyez une fois tous les 6 mois, mais ils sont là pour prendre leur dose de yin et puis ils repartent. Donc non, les élèves ne s'ennuient pas, c'est juste qu'à un moment donné, ils ont peut-être envie de faire autre chose, d'avoir une autre énergie, de suivre un autre enseignant, mais c'est exactement la même chose pour nous. Quand on suit une personne pendant un long moment, tant qu'on a des choses à apprendre, eh bien on poursuit son chemin, et puis à un moment donné, on sent qu'on n'apprend plus de cette personne, on n'est plus sensible à ce qu'il raconte, et dans ces cas-là, on préfère aller trouver une autre personne qui va nourrir nos attentes. Donc la lassitude peut arriver au bout d'un certain temps, mais la plupart du temps, les élèves restent assez longtemps quand même. Donc si vous avez cette question-là, vous aussi, d'ennui dans la pratique, vous pouvez vous référer à l'épisode numéro 5, c'est vraiment tout le sujet de cet épisode, si on a peur que les élèves s'ennuient, ou même en tant qu'enseignant, si on a peur de s'ennuyer à donner un cours de yin régulièrement. Alors comment transformer un tout niveau en cours avancé? La réponse est simple, c'est de donner un cours à plusieurs vitesses ou un cours qui permet de s'adresser à plusieurs niveaux. En fait, quand on entend tout niveau, on peut entendre deux choses. La première chose, c'est que c'est adapté à tous. Du coup, on va proposer en tant que professeur un cours de base qui va correspondre à toutes les personnes qui sont dans la pièce. L'autre façon de voir les choses, c'est de penser que chaque niveau a sa place dans ce cours. C'est-à-dire qu'on part dès le départ d'un mélange de niveaux, d'un mélange de capacités corporelles dans ce niveau-là, et que l'on crée son cours de manière à intégrer ces différents niveaux. Donc voyez en tant qu'enseignant où est-ce que vous vous situez dans ces deux façons de voir le tout niveau. La première, vous construisez votre séquence de manière à ce que la séquence qui est proposée correspondra à tout le monde, ou encore vous travaillez votre séquence de manière à ce que vous puissiez passer d'un niveau à un autre en changeant les intensités, en changeant quelques indications, etc. Et vous n'avez pas du tout la même intention dans les deux cours, mais ça reste un cours quand même tout niveau à chaque fois. Alors avant de vous donner des façons de transformer votre cours tout niveau en cours avancé, voyons la notion d'avancer dans le cours de yin. Bien sûr, cela peut se reporter à d'autres types de yoga aussi. En termes de posture, vous avez des postures qui vont être des postures de débutant et des postures avancées. Une posture avancée, elle peut avoir deux choses. Ça peut être parce que la personne a de l'expérience, a l'habitude de pratiquer, donc on peut être avancé parce qu'on pratique depuis des années et des années, mais aussi une posture avancée, ça peut être aussi une question d'amplitude. On va faire une posture qui va être plus accessible pour les hyperflexibles. On appelle ça une posture avancée, mais c'est plus une question d'amplitude. On peut être débutant dans la pratique du yoga, mais néanmoins faire des postures dites avancées, parce qu'elles nécessitent une certaine amplitude, et pour cela, certaines personnes ont vraiment cette capacité-là. Donc ça, c'est pour les postures, la notion avancée dans les postures. On peut être aussi avancé dans la respiration. Dans la respiration parce qu'on maîtrise les différents temps respiratoires. On est à l'aise avec le fait d'inspirer, de retenir son souffle, d'expirer, de retenir son souffle. On peut aussi avoir une maîtrise dans le fait d'allonger le souffle et d'être en mesure de maintenir son souffle pendant 10 secondes. Alors, il y a des personnes qui ont des capacités respiratoires de base qui permettent de retenir le souffle longtemps ou d'allonger l'inspire et l'expire. Et vous avez d'autres personnes qui ont des capacités respiratoires qui sont beaucoup plus faibles, beaucoup plus petites. Et maintenir un souffle jusqu'à 5 secondes, c'est déjà un effort conséquent. Donc la respiration aussi peut nous dire qu'on peut avoir un avancé et aussi un intermédiaire. Et je considère aussi comme étant une pratique avancée quand on sait faire la différence entre une respiration yang qui va être musculaire, vraiment engager les muscles, va demander peut-être beaucoup d'efforts dans le fait d'allonger le souffle, de retenir le souffle, enfin avoir un effort musculaire conséquent, et d'une respiration qui est yin, où on essaye de respirer moins longtemps, moins souvent, on va peut-être se rapprocher de quelque chose qui correspond à de la cohérence cardiaque par exemple, mais du coup c'est pas du tout la même façon d'aborder la respiration. Il y a une respiration qui va être active et une respiration qui va être beaucoup plus observateur qu'actif. Donc c'est aussi une question d'habitude dans la pratique, mais si on a l'habitude de pratiquer par exemple du vinyasa, on aura une respiration qui est beaucoup plus yang, beaucoup plus active, et savoir ensuite se détacher de cette respiration, être dans l'observation de la respiration, intervenir le moins possible, va demander un effort quelque part, et on va passer d'une pratique habituelle qui est avancée, parce qu'on a l'habitude de respirer avec de l'effort, des allongements, mais par contre on revient à un niveau débutant quand il faut apprendre à ne pas intervenir sur le souffle. Donc c'est pareil, cette notion d'avancée débutant de tout niveau, elle va dépendre de quel axe, de quelle action, de quel secteur de la pratique on parle. Un autre critère dans la pratique avancée, c'est l'immobilité, la capacité à rester immobile. La plupart du temps, les débutants, sauf s'ils pratiquent déjà la méditation ou des pratiques équivalentes, eh bien rester immobile pendant de longues périodes, c'est un effort constant. Et les premiers temps, les premiers mois, voire même les premières années, savoir rester jusqu'à 5 minutes dans la posture, dans l'immobilité, c'est une pratique avancée. Il y a des personnes qui ont cette capacité-là parce que c'est dans leur tempérament, leur façon de vivre, etc. Moi, j'ai besoin de bouger beaucoup, donc ça m'a demandé énormément d'attention, d'efforts, de pratique pour pouvoir rester immobile. Donc cette notion d'avancée et de débutant arrive aussi dans cette capacité à être immobile. Donc vous voyez ici qu'on peut parler de débutant et d'avancé au sein d'un même groupe pour une même personne, mais la personne, en fonction de la thématique, de ce que l'on va faire pendant la pratique, va être soit considérée comme étant avancée ou considérée comme étant débutant. Donc cette notion finalement d'avancé et débutant, elle va être peu justifiée dans certaines situations. L'essentiel, c'est d'essayer la pratique, de répondre aux consignes et de trouver ce que l'on vient chercher dans la pratique. C'est ça le plus important finalement, c'est d'être à l'aise dans sa pratique, de s'en amuser, de trouver des ressources, plutôt que de se mettre une étiquette de « je suis débutant, je suis avancé, je suis expérimenté » ou « je commence tout au début ». Il y a des personnes aussi qui ne veulent pas du tout rentrer dans un cours débutant parce qu'ils ont peur de s'ennuyer, ça fait longtemps qu'ils font de la pratique, ils disent « bah non, moi je ne suis pas débutant, je ne veux pas aller dans un cours débutant ». Mais c'est important de revenir aussi à un cours débutant, ça nous permet de reprendre des choses, d'avoir un œil nouveau sur ce qu'on a l'habitude de faire marche arrière aussi. Et on a tous besoin, quels que soient les secteurs, quels que soient les domaines, de temps en temps se remettre à la place de débutant pour se rappeler aussi ce que ça fait, pour reprendre les choses, pour reprendre avec un nouvel œil. Et encore plus quand vous changez d'enseignant, vous allez apprendre à faire différemment. Donc se remettre à la place de débutant, c'est nécessaire. Maintenant que nous avons clarifié cette notion d'avancer dans le yin yoga, voyons comment transformer tout niveau en niveau avancé. Et pour cela, je vous propose quatre façons. La première façon, c'est de proposer à chaque fois deux ou trois postures. À chaque fois, ce seront des variations d'un même endroit qui va être visé et que chaque personne va choisir sa variation. Pour être plus clair, imaginez la posture du dragon. La posture du dragon, c'est une posture de chevalier servant ou une posture de fente ou Anjaneyasana. Et il y a donc une jambe qui est en avant, une jambe qui est emmenée en arrière. Ce que l'on cherche à faire, c'est étirer le quadriceps et les fléchisseurs de hanche au niveau de la jambe arrière. Donc ça, si on cherche la qualité d'étirement, l'intention de l'étirement, c'est dans cette région-là, cuisse, fléchisseur de hanche. Donc on peut s'installer dans cette position de dragon avec les mains par exemple posées sur le sol devant soi. Mais si les poignets sont douloureux ou les cervicales, poser les mains sur le sol va demander trop d'intensité dans toute la partie haute du corps. Dans ces cas-là, on peut s'installer dans une autre posture qui est un demi-pont. Elle se fait allonger sur le dos. Un bolster ou un autre type de support est posé sous le sacrum. Il y a une jambe qui reste allongée, talon posé sur le sol, et l'autre jambe est posée, genou sur la poitrine. Donc on va retrouver, côté jambe tendue, un étirement, une sensation sur le quadriceps ou le fléchisseur de hanche. Donc ça permet d'avoir deux postures qui vont avoir une action similaire quadriceps fléchisseur de hanche, mais ne vont pas activer de la même manière la chaîne scapulaire, donc le haut du corps avec les bras, les épaules, les poignets, ou encore la chaîne lombaire dans les appuis par exemple sur le sol. Deux postures différentes, mais avec deux intentions différentes. Choisir un dragon va permettre de réchauffer, d'être actif, d'être présent, d'être tonique, alors qu'une posture de demi-pont, mentalement, émotionnellement, ça va permettre de relâcher, de se laisser aller, de se détendre. Donc aussi l'intention émotionnelle, énergétique, ne va pas être la même sur ces deux postures. Donc à chaque fois, c'est de proposer deux ou trois postures qui sont des variantes et qui vont permettre à chaque personne de choisir en fonction de son énergie, de ses intentions, de ses blessures, et cela permet dès le départ d'inclure ceux qui ont des grandes amplitudes, des petites amplitudes, ceux qui sont débutants, ceux qui sont avancés. Et aussi peut-être de dire, bon, entre ces deux postures, les deux postures sont équivalentes, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, celle-ci sera peut-être plus accessible dans telle condition, et celle-ci sera peut-être plus accessible dans telle autre condition. Donc ça permet aussi de donner des critères de sélection, et chaque personne est alors autonome dans le choix de sa propre posture. La deuxième façon est d'ouvrir le champ des postures. J'entends par là de laisser de la place à toute autre posture. Prenons l'exemple d'une fin de séquence de yin qui souvent se finit par une torsion allongée. Et de dire, si vous avez l'habitude de pratiquer, si vous avez l'habitude de certaines postures et que vous avez envie de finir par une toute autre torsion, sentez-vous libre de le faire. Donc vous proposez une torsion à toute la salle qui va être la même pour tout le monde, mais en ouvrant avec cette phrase-là, de dire que vous pouvez faire une autre posture qui vous convient, eh bien ceux qui ont l'habitude de pratiquer, ceux qui ont l'habitude de venir, vont vous faire leur posture, par exemple en faisant une torsion sur le bolster, en entrelaçant les jambes, en étirant les jambes devant. Donc chaque personne pourra ensuite adapter et se sentir libre. Et c'est chouette de pouvoir proposer une posture à tous, mais de voir que chacun, ensuite, ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont l'habitude de pratiquer, choisir une posture qui leur est beaucoup plus adaptée. À la fois, ça montre de l'autonomie, de l'écoute et un respect aussi de leurs propres envies du moment. La troisième façon est de rappeler que toute adaptation est possible, qu'on n'est pas obligé de rester dans ce que l'on a proposé et que l'on a toujours une autre façon de faire, ou on peut décider aussi de faire une toute autre posture si une première posture n'est pas accessible. Et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait juste. Et c'est aussi d'encourager cette forme de ahimsa, de respect de soi, de respect de ses articulations, de son état du jour, de son état mental, et de faciliter ses habitudes de manière à ce que chacun pratique en fonction de ce qu'il a besoin à ce moment-là. Et la dernière façon de transformer un cours tout niveau en cours avancé, c'est le temps. Parce que on reste entre 3 et 5 minutes à peu près dans une posture, et de rappeler qu'à tout moment, on peut sortir de la posture quand elle est trop intense, inconfortable, qu'elle devient douloureuse, ou que vraiment il y a quelque chose qui dit non mais en fait là il faut vraiment que je sorte de la posture. Donc d'avoir cette proposition dès le départ en disant mais vous pouvez vous arrêter à tout moment, eh bien ça permet aux débutants qui se familiarisent avec les sensations, les ressentis, etc. de la posture, sont en mesure de rester moins longtemps et de prendre leur marque dans le répertoire, dans la pratique, et de se familiariser au fil du temps avec les postures, avec la tenue dans les postures. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui sont avancées, qui, elles, parfois, parce que vous donnez aussi cette autorisation, restent un petit peu plus longtemps dans la posture parce que ils sentent que 30 secondes ou une minute de plus, ben, ce serait chouette. Ben, dans ces cas-là aussi, ils ont cette possibilité de varier dans le temps. Donc, en tant qu'enseignant, il faut accepter qu'il y ait une certaine forme d'anarchie dans le cours parce que vous allez avoir des élèves qui vont vivre à leur rythme, ne pas forcément faire la même chose que les autres. Donc ça, il faut être aussi très au clair. Si vous donnez un cours où les niveaux se mélangent et vous donnez cette possibilité, vous acceptez qu'une personne va faire une posture et une autre va faire une autre posture, que les temps, que les rythmes vont être différents et qu'il va y avoir du mouvement régulièrement dans la pièce. Donc ça, il faut être très à l'aise avec ça en tant qu'enseignant, parce que si vous aimez une certaine qualité d'ordre et que tout le monde aille dans la même direction, et bien dans ces cas-là, vaut mieux rester sur une seule posture, une seule proposition pour tous, plutôt que d'être soi-même en inconfort face à cette forme d'anarchie. Anarchie, c'est un grand mot, mais des fois, ça peut être ressenti comme cela. En conclusion, le cours de Yin est complètement modulable. Et cela va dépendre de beaucoup de facteurs, aussi bien de ce qu'on va appeler débutant ou avancé, et la façon dont on propose le cours, comment on prépare sa séquence et comment on offre sa séquence. Quand un enseignant décide de proposer plusieurs niveaux à l'intérieur de son cours, au départ c'est un petit peu désarçonnant, et ne pas hésiter à recommencer régulièrement, peut-être sur juste des petite partie dans le cours, hein. Pendant 15 minutes on apprend avant de passer à 30 minutes au bout de quelques semaines, et puis c'est tout le cours qui se déroule comme ça. L'aisance va se faire à force de répétition, à force de tests, à force d'essais, et de voir aussi comment répondent les élèves en face. Dans certaines classes, les élèves ont besoin vraiment d'être accompagnés du début jusqu'à la fin et n'aiment pas trop cette possibilité d'être maître de soi-même. Donc c'est aussi quelque chose qui doit s'apprendre au fil du temps. Et puis, toujours en étant enseignant, c'est de vous dire, vous, quand vous recevez un cours, est-ce que vous avez envie d'être guidé du début jusqu'à la fin ? L'enseignant qui est en face de vous va être maître à bord et vous suivez les instructions ? Ou est-ce que vous, en tant que pratiquant dans un autre cours, vous appréciez ces modulations, ces possibilités de faire autrement, d'avoir cette souplesse dans un cadre, parce que ça va vous donner aussi matière à réflexion et de vous dire « Ok, moi j'ai vraiment besoin d'être accompagné du début jusqu'à la fin, justement c'est ça que je veux. Ben, » dans ces cas-là, ne cherchez peut-être pas à faire un cours tout niveau, avec des niveaux différents à l'intérieur, parce que c'est peut-être pas du tout ce que vous avez envie de faire, et dans ces cas-là, le partager, ça devient compliqué. Donc restez sur ce qui vous est propre à vous-même, ce que vous aimez faire et comment vous aimez recevoir votre cours. Si par contre vous aimez avoir de la variété, avoir une certaine autonomie, ben dans ces cas-là, testez, essayez ces différentes façons. J'espère que cet épisode vous aura donné matière à moduler votre enseignement pour que le cours soit un cours tout niveau en intégrant de l'avancée à l'intérieur. Si vous n'êtes pas enseignant mais juste pratiquant, c'est de vous laisser aussi la possibilité de faire une autre posture dans un cours, en demandant bien sûr si l'enseignant est d'accord avec cette possibilité-là. Et une dernière chose qui est importante, il n'y a pas une façon de faire, il existe de multiples façons de faire. Le plus important, c'est de trouver votre propre voie. Si vous voulez aller plus loin dans ce type de pédagogie où vous parlez de plusieurs niveaux, où vous apprenez à déployer vos capacités, votre enseignement de manière à vous adresser à plusieurs niveaux dans un même cours, c'est un des thèmes de toutes les formations que je donne. Que ce soit les formations de Yin ou encore plus dans la formation de Yin approfondie qui est une formation qui est ouverte à tous les professeurs de Yin Yoga, quel que soit leur enseignant, et qui veulent approfondir à la fois leur pratique et leur enseignement. Si vous êtes intéressé, vous avez toutes les informations en descriptif de cet épisode ou vous pouvez aussi vous diriger vers mon site. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify, ou en m'envoyant un email, ou encore en laissant un message privé sur Instagram. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle aventure d'un épisode de Blabla Yoga. Prenez soin de vous et à bientôt !